Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en 1914 à Paris. Dehors, la terrible guerre a déjà commencé, mais rien de l'extérieur ne semble atteindre cet appartement parisien du 102 boulevard Haussmann, près de la gare Saint-Lazare. La jeune Céleste en suit le couloir. Elle traverse l'entrée et le grand salon. Arrivée devant la porte de la chambre, elle l'ouvre sans frapper et entre sans dire un mot. Céleste Albaret a bien appris son travail. Il consiste à ne pas déranger Marcel Proust dans le sien, celui d'écrivain. Il a sonné deux coups, c'est pour le café et les journaux. Elle pose le plateau et sort, toujours sans dire un mot. La jeune femme, 22 ans, n'est pourtant pas de ce monde. Elle n'appartient pas au Paris littéraire. Céleste est née en 1891 en Lozère dans une famille de cultivateurs. Elle est arrivée quelques semaines auparavant à Paris pour rejoindre son mari qui, comme elle dit, fait le taxi. Elle n'avait jamais quitté son village. Odilon Albaret transporte souvent un certain Marcel Proust, un homme extraordinaire qui a pensé à envoyer un télégramme à son chauffeur occasionnel le jour même de ses noces. C'est le même Proust qui a offert à Odilon d'engager sa femme, d'abord pour faire la courrière, comme dit l'écrivain, c'est-à-dire pour porter les livres dédicacés qu'il distribue autour de lui, à commencer par son roman Du côté de chez Swann, paru chez Grasset en 1913, et puis pour travailler à son domicile. La même année, il est nommé pour le prix Goncourt. Céleste le sait à peine, elle n'a reçu qu'une éducation sommaire, elle ne lit pas. Avec la guerre vient la mobilisation d'Odilon et celle du valet de chambre de Proust. Pour le remplacer, l'homme de lettres demande à Céleste de s'installer chez lui. Vivre avec une femme, ce n'est pas très correct, mais enfin c'est la guerre et il n'y a pas d'autre choix. Elle ne sait rien faire, dit-elle, mais elle s'adapte. Bientôt, l'écrivain a besoin de son aide pour coller les ajouts sur les manuscrits. Céleste y met le plus grand soin. Céleste pénètre un monde à part, un univers calfeutré. À 43 ans, Proust a une santé fragile. Sa terreur, c'est de mourir avant d'avoir pu achever son œuvre, sa cathédrale, comme il l'appelle, à la recherche du temps perdu. Tout ce qu'il demande, c'est la tranquillité, le silence. Il a fait couper le téléphone, il vit comme un reclus dans la seule pièce qu'il habite, sa chambre. Une bulle couverte de liège, des murs au plafond pour étouffer les bruits. C'est là qu'il vit, qu'il dort, surtout là qu'il écrit et mange aussi. Enfin, au grand désespoir de Céleste, Proust ne mange presque rien en dehors de ses cafés au lait et de ses croissants. D'ailleurs, il ne semble pas dormir non plus, en tout cas pas la nuit. Céleste ne sort plus, elle se lève en début d'après-midi et s'occupe en attendant Proust. Lui se lève vers 17 ou 18 heures. Elle veille auprès de lui, elle attend ses consignes, mais pas un coup de sonnette, pas un visiteur, rien. Alors, petit à petit, Proust lui conseille de lire le recueil des Mille et une nuits d'abord et puis des poèmes de Verlaine, de Sully Prudhomme. Ils en parlent ensuite le soir. Le grand écrivain récite aussi des vers de Musset. Il commande pour Céleste les journaux, il bavarde de plus en plus. Lorsqu'il sort tard le soir, Céleste l'attend. Monsieur n'a pas de clé, et en rentrant au petit matin, il lui raconte tout. La bêtise des uns, les bons mots des autres, les plus belles robes. Elle va se coucher, il la rappelle. Il a oublié telle ou telle anecdote. Proust a, dit-elle, un don pour lui rapporter du dehors la comédie. Pour elle, c'était comme s'il avait voulu retenir le temps par les cheveux pour l'empêcher de fuir et de lui emporter ses personnages. Céleste n'est peut-être pas très cultivée, mais elle est intelligente, vive, et elle a de l'esprit. Comme Proust, elle est moqueuse, ils rient beaucoup tous les deux. Proust se confie à elle. Quand il est trop faible, Proust lui dicte ses textes. C'est Céleste qui trouve un système pour lui permettre de corriger sa prose dans ses cahiers. Elle y colle des bouts de papier supplémentaires patiemment. Ensemble, ils organisent des veillées durant lesquelles Proust la questionne longuement sur son enfance, sur sa famille. Il écoute, la joue posée dans la main, très attentif, comme s'il transformait déjà tout en écriture, se rappelle Céleste. Il aimerait écrire un livre sur elle, dit-il. Il s'en inspire en fait pour certains de ses personnages de la recherche. Si Céleste part, je ne pourrai plus écrire, réalise le grand écrivain. Il l'admet, sans sa gouvernante, il n'a aucune chance d'achever un jour sa grande œuvre, car le temps est compté. Céleste, quant à elle, ne compte pas ses heures. Elle n'a pas d'horaire, jamais de congé. Elle aussi vit la nuit désormais pour s'adapter au rythme de son patron. Elle change sa bouillotte, lui apporte une tisane. Parfois, Proust sort vers 22 heures ou même plus tard. Il n'y a que dans ces moments-là, la nuit, qu'elle peut faire le ménage, aérer l'appartement, ramasser les centaines de papiers que Marcel Proust a étalés partout autour de lui. Et pourtant, tout l'enchante, la finesse et le raffinement de l'écrivain, son génie. La jeune femme est fascinée. Le 11 décembre 1919, on sonne à la porte. C'est Gaston Gallimard en personne. Proust vient d'obtenir le Goncourt pour le tome 2 de la recherche, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est elle qui porte la nouvelle à l'heureux lauréat. Mais le succès ne guérit pas Proust. À l'automne 1922, la situation s'aggrave. Céleste ne ferme plus l'œil. Elle le veille en permanence. Pendant 7 longues semaines, elle ne se couche pas une seule fois. Le grand auteur et sa gouvernante entament ensemble une course contre la mort. Proust a posé le mot fin au bas de son manuscrit, mais le travail n'est jamais fini. Il relit, annote, donne des consignes à Céleste. N'oubliez pas de coller ces papiers à telle page. Vous n'oublierez pas, non ? Marcel Proust s'éteint le 18 novembre 1922. Céleste à ses côtés. Quelque temps plus tôt, le maître lui avait conseillé de tenir son journal pour le vendre à sa mort comme le boulanger vend ses petits pains. Mais Céleste n'en a rien fait. Elle a respecté l'intimité de son ami pendant plus de 50 ans, pour finalement livrer ses souvenirs au micro d'un journaliste à l'âge de 82 ans. Un dernier hommage à celui qui, selon ses tendres mots, avait comblé sa vie.
Europe 1, historiquement vôtre.